Merci Seigneur. Bonjour à tous.
Bonjour.
Je suis bien. Hein? Non, c'est parce qu'il faut que je dise quand même qu'il y a des fois, pour faire une prédication, bon, on ne peut pas dire que c'est facile, mais ça va. Puis il y a d'autres fois, ben, ça ne va pas, toi, ça ne va pas comme on voudrait que ça aille. Hein? Et puis c'est beaucoup plus dur. Enfin bon, après réflexion, j'étais inspiré par un texte qui peut sembler également très dur à entendre. Un texte qui nous parle de souffrance, un texte qui nous parle de larmes, qui nous parle de douleur, et pourtant un texte qui, au milieu de cette souffrance, nous fait une promesse assez incompréhensible. Heureux serez-vous. Ce texte est très connu d'ailleurs et pourtant, je pense, très mal compris. C'est ce passage de Matthieu 5, les versets 1 à 12, qu'on appelle plus souvent les béatitudes. Et puis qu'on va commencer à lire. Mon frère va nous lire tout ça.
Alors Jésus, voyant ses foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui. Et il se mit à les enseigner. Il leur dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement, pauvres car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux est heureux serez-vous quand les hommes insulteront. Et vous persécuteront lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière.
Amen. Il y a une version, j'ai une autre version, mais c'est à peu près la même chose. Allez, on va commencer par dire à qui s'adresse ce texte.
À nous. À la foule.
À nous.
Tout le monde.
Eh ben non. L'erreur est là. Comme je le disais, c'est un texte assez étrange et très dur à entendre. Enfin, il semble dur à nos oreilles et pourtant, je pense, plein de vérité et d'espérance. Et pour bien le comprendre, il faut avant tout savoir à qui Jésus est en train de s'adresser. Ce texte fait partie de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, qui va de Matthieu 5 à Matthieu 7. C'est un très long discours de Christ qui est en train d'enseigner. Mais qui est-il en train d'enseigner? Et je vais vous relire les versets 1 et 2. Voyant la foule, non, je vais lire la mienne. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. On comprend souvent ce texte comme un enseignement de Jésus à la foule. D'accord? C'est bien ce que vous avez cru, alors. Jésus regarda la foule, il s'assied, ses disciples s'approchent, et Jésus se mettait à leur enseigner la foule, et dit à ses disciples réunis. C'est ça que vous avez lu? Ah, moi, j'ai pas lu ça. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Il nous dit que Jésus voit la foule. Il monte sur la colline. Il s'assoit, ou il s'assied. Ses disciples se rassemblent autour de lui et il les enseigne.
C'est comme la parole qu'on dit, aimez-vous les uns les autres.
Exactement.
Aimez-vous les uns les autres.
Il enseigne ses disciples. Il ne parle jamais à la foule dans un texte. On ne dit pas que la foule suit Jésus sur la colline. Vous n'avez pas vu dans le texte. La foule n'a pas suivi Jésus sur la colline. On ne dit pas que la foule se rassemble autour de lui. Non. On ne dit pas que Jésus enseigne la foule. Mais ceux sont les disciples du Christ qui se rassemblent autour de lui dans ce lieu isolé, le sommet d'une colline pour recevoir un enseignement de la part du maître. C'est les disciples. Jésus n'enseigne pas tous les hommes dans ce texte. Il ne parle pas à tout le monde, il parle uniquement à ceux qui croient en lui, ceux qui le suivent, ses disciples. Et avant de voir ensemble ce que dit ce texte, j'aimerais que nous voyons ce qu'il ne dit pas. On commence par dire de voir ce qu'il ne dit pas. J'ai souvent entendu ce texte utilisé pour promettre la consolation à ceux qui souffrent. C'est vrai. Bien souvent, quand on s'adresse à quelqu'un dans la souffrance, on utilise ce texte pour mauvaise solution. Pour promettre le bonheur à ceux qui pleurent, pour promettre la justice à ceux qui ont subi un événement monstrueux. Parce que c'est ce que promet ce texte. La consolation de Dieu pour ceux qui pleurent, le bonheur dans la souffrance, la justice pour ceux qui le recherchent. Mais ce texte ne promet pas ces choses à tous les humains. Il ne promet pas non plus à tous les aspects de notre vie. Il s'adresse à un auditoire particulier, ceux qui sont disciples du Christ. Et il parle d'un sujet bien précis, l'espérance dans le royaume des cieux. Ça change tout déjà. On voit le texte différemment. Lorsqu'une personne souffre, on a parfois tendance à lui dire, un peu légère, que si elle se tourne vers Dieu, elle recevra la consolation, sa paix et sa joie. Ah bon ? Dites-moi, Jésus il a demandé à tous ceux qui l'a guéri, si tu te tournes vers moi, d'abord je te guérirai. Si vous trouvez une parole comme ça dans la Bible, vous me le dites, parce que moi j'ai beau lire, non.
Non, non.
Non, non.
Ah non.
Si tu crois. Non, mais tous ceux qui se sont avancés, qui ont cru.
Ah attends, parce que là c'est autre chose. Tu vas attendre que je finisse ma prédication, s'il te plaît.
Mais en plus, tu as dit c'est vrai parce que c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes, tu vois.
Mais tu attendras, s'il te plaît.
Ah, excuse-moi. Je vais regarder la fin de la
C'est bien, ce n'est pas absolument ce que dit ce texte. Bien sûr, nous avons foi dans ce que Dieu peut consoler celui qui souffre, qui peut apporter sa paix et sa joie, même dans le malheur. Mais nous savons également que ce n'est pas systématique. La relation des dieux n'est pas un remède miracle à la souffrance. D'accord ? Ça ne délivre pas de la douleur, ça ne résout pas les problèmes, ça ne guérit pas de manière systématique. Dieu peut le faire, dans le mystère de sa volonté, mais ce n'est absolument pas une promesse qu'il nous ferait dans ce texte. Je comprends que la souffrance parfois extrême de notre prochain nous plonge dans la gêne, dans l'inconfort, dans l'incompréhension même, parce qu'on vient finalement à souffrir avec eux alors qu'on n'a rien, qui n'est rien et que nous ne rien et ne nous est personnellement arrivé. Non, mais on souffre avec eux. Tiens, c'est bizarre ça. Mais il ne faut pas balayer ce sentiment de gêne par des promesses toutes faites de bonheur et de paix. Il ne faut pas non plus se dédouaner de notre devoir de compassion en disant aux gens que vous n'y êtes pour rien et qu'il vaut mieux qu'ils se tournent vers Dieu. Ah, là, c'est tout à fait différent encore. Alors, à la limite, on arrive presque à dire, t'écoutes pas ce que t'a dit Dieu, là. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Va de par le monde. Apporte ma parole. Sauve les hommes. Non, il n'a pas dit sauve les hommes. Apporte ma parole, c'est moi qui le sauverai. Ah, attention là aussi. D'accord ? Mais le Seigneur nous l'assure, c'est à travers notre faiblesse et notre impuissance qu'il relève sa force. Pas ta force, sa force. Et c'est par nos actes, même maladroits de compassion et d'amour et de consolation, que le Seigneur touche les gens d'une manière et que nous n'aurions jamais pu imaginer. Même si on parle mal, mais si on parle avec amour et avec l'Esprit de Dieu, ça change tout. Alors on va regarder le sens des béatitudes. Si le texte ne s'adresse qu'aux disciples du Christ, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner de tellement spécifique, au point que ça ne concerne pas tous les humains? Qu'est-ce qu'il veut nous dire de spécifique? Ça ne concerne pas tous les humains. En fait, ce passage décrit tout simplement l'espérance de notre foi en Christ. C'est ce que nous allons regarder ensemble en se penchant plus précisément sur ces fameuses béatitudes. Heureux ceux. Il y a dans ce texte 8 béatitudes. 8 petites phrases qui commencent par « Heureux ceux ». Ce sont les versets 3 à 10. Les versets 1 à 2 ne sont qu'une introduction qui plante le décor et nous parle de l'auditoire. Les versets 11 et 12, ce sont eux, une sorte d'explication supplémentaire qui viendrait après les béatitudes. Nous allons donc regarder ensemble plus précisément ces 8 béatitudes, c'est les versets 3 à 10. Et heureusement pour nous, l'auteur nous a laissé un moyen très clair de comprendre ces phrases qui semblent si étranges. Parce qu'il commence au verset 3, il se termine au verset 10, et qu'il est le thème central de ce passage, « Ceux à qui appartiennent le royaume de Dieu » ou « le royaume des cieux ». Et voici ce qu'il nous dit ces gens-là. « Ils se reconnaissent spirituellement pauvres et ils sont opprimés pour la justice. » Eh ben, dis donc, quelque part, on pourrait se dire, mais vraiment, être au Seigneur, avoir foi en lui, vivre sa vie, c'est prendre des coups tout le temps, avoir de l'injustice, être malheureux. Mais souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a dit Jésus au fait? Je vais vous le rappeler après. D'accord? Avoir part au royaume des cieux, c'est une manière de parler du salut que nous n'avons pas, la foi en Jésus-Christ. Parler de ceux qui sont au royaume des cieux, c'est parler en fait de ceux qui s'adressent, à qui s'adresse le Christ dans ce texte, c'est-à-dire ses disciples. D'accord? On revient toujours aux mêmes choses, on s'adresse aux disciples. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les disciples, d'accord? Mais à l'époque, rappelez-vous, ils étaient 3000, combien ils sont restés dans la chambre haute? Pourtant, au départ, ils étaient 3000. Hein? D'accord? Les disciples, on parle. Ceux qui ont cru. Et une des choses qui caractérise les disciples du Christ, c'est qu'à un moment donné de leur vie, ils ont pris conscience de tout le mal qu'ils ont pu faire. Vous avez rien ? Qu'ils ont pris conscience de tout le mal qu'ils ont pu faire. Ils ont pris conscience qu'ils ne pouvaient pas se laver eux-mêmes de toutes ces choses. Ils ont pris conscience que spirituellement, ils sont pauvres. Les disciples de Christ, ce ne sont pas les personnes qui se basent, Pardon, excusez-moi.
Ma femme, elle ne me dit jamais ça, bois un coup.
Je reprends. Les disciples du Christ, ce ne sont pas les personnes qui se basent sur leur force, qui mettent leur confiance dans leur qualité, qui se fient en eux-mêmes. Mais ce sont des personnes qui ont eu l'humilité et l'honnêteté de se reconnaître coupables devant un Dieu si parfait. Et ces personnes ont alors accepté tout simplement le cadeau gratuit que Dieu a fait à tous ceux qui ont cette humilité, cette repentance, c'est son pardon, son salut et la promesse d'une vie éternelle à ses côtés. Ceux qui auront accès au royaume des cieux, au salut en Jésus-Christ, c'est ceux qui ont reconnu comme spirituellement et donc dépendant de Dieu pour être sauvés, pour être justifiés. C'est ce qu'il nous dit au verset 3. Mais ça, c'est une espérance merveilleuse qui va au-delà de notre vie présente. Pourtant, ce n'est pas si merveilleux à suivre au jour le jour, parce que certaines personnes ont de la haine envers les disciples du Christ. Vous croyez qu'il y en a beaucoup? Il y en a des fois, vous parlez, si vous arrive de parler du Christ, vous voyez bientôt la fumée qui sort par les oreilles, les canons qui se sont mis dans les yeux. Et heureusement que ce ne sont pas les vrais canons, parce qu'autrement, d'accord? Ils en viennent à faire du mal à ceux qui cherchent cette justice pour eux-mêmes dans le Seigneur. Et donc notre texte nous l'affirme, ceux qui ont accès au royaume des cieux, ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ, ces personnes peuvent en venir à souffrir, à être opprimées, dans leur recherche de la justice de Dieu. Vous avez compris la phrase? En fait, c'est des disciples. Ceux qui ont accès au royaume des cieux, ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ, ces personnes peuvent en venir à souffrir, à être opprimées dans leur recherche de la justice de Dieu. C'est ce que nous dit le verset 10. Être disciple du Christ, c'est rechercher ce salut jusque dans l'éternité. C'est reconnaître que seul Dieu peut nous donner le pardon, le salut, la justification nécessaire pour vivre à ses côtés pour toujours. Seul Dieu. Mais c'est également dans le présent parfois souffrir à cause de notre foi. Il y en a combien dans le monde qui souffrent à cause de notre foi? De leur foi.
Ils sont tués.
Il y en a combien qui sont emprisonnés? Il y en a combien qui passent bientôt leur existence dans des cellules pour ne pas renier la foi? Pour eux. C'est comme. C'est, on peut dire que nous, on est heureux aussi. Hein,
oui.
D'accord? Voilà ce que Jésus nous enseigne dans ce verset 3 à 10, qui résume en fait le reste des béatitudes. Parce que dans ce texte, Jésus nous parle de notre espérance après cette vie au verset 3 et comment ça se concrétise dans notre vie présente au verset 10. Et toutes ces autres béatitudes ont la foi un sens pour notre vie et jusque dans l'éternité. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. En effet, le chemin d'humilité qui amène à reconnaître nos fautes, ce n'est pas un chemin facile. Ça fait mal de se voir tel que nous sommes. Rappelez-vous tel que vous étiez, et là, ça fait mal de le voir, d'accord? Ça fait mal de reconnaître notre impuissance. Si ce n'est pas Dieu qui te fait faire les choses, tu crois que tu peux les faire tout seul? Non. Tu es impuissant.
Oui, en moi, vous.
Ça fait mal de renoncer à notre orgueil. Parce que tout chrétien que nous sommes, quelque part, de temps en temps, il reste un petit peu d'orgueil personnel. Hein.
Bien sûr. Il en faut un peu.
Mais... Non, il n'en faut pas. Mais il est là. Et il est là. Et j'ai entendu énormément de témoignages de personnes qui ont fondu en larmes le jour de leur conversion. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous. Mais ça a été mon cas.
Pas de conversion sans larmes.
Je ne parle pas de joie, de larmes de joie, pardon, mais de larmes de souffrance, de remords, de regret. C'est ces larmes-là qui étaient à ce moment-là. Hein. Ce n'était pas de larmes de joie. Ouh, je suis content. Ah non.
Après, ça vient.
Ça, c'est autre chose. Mais cette souffrance est bonne parce qu'elle nous amène à nous tourner vers Dieu, à recevoir son pardon et son salut. C'est déjà une consolation formidable pour, dans notre vie présente, qui apaise cette douleur et la transforme en joie. Et la transforme en joie. Mais c'est aussi l'espérance de vivre cette joie et cette consolation jusque dans l'éternité. Parce que ce qui est pour nous, notre espérance, c'est l'éternité avec notre Seigneur. S'il n'y avait pas ça, ça servira à quoi? Non? Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Pas mal ça, hein? C'est un bon héritage quand même. Hein? C'est le mien l'héritage, c'est pas le tien. Ah ben oui, la terre, il n'y en a qu'une seule, hein? Signal. Mais enfin, on sera plus heureux de l'avoir. On en a déjà parlé largement, c'est l'humilité qui nous amène à la repentance devant Dieu et donc qui nous amène au salut jusque dans l'éternité. Et cette éternité ne se... On ne la passera pas à vivre dans les nuages comme les angelots tout nus. Hein. Vous voyez des petits anges tout nus dans... Ah bon, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Au contraire, la Bible nous promet que Dieu viendra recréer toutes choses d'une manière parfaite. De nouveaux cieux, une nouvelle terre, sans le mal, sans la souffrance, sans la maladie, où nous pourrons vivre éternellement et sans fin dans la présence directe de Dieu. Ah, ça change tout là. C'est ça la terre dont nous hériterons les disciples du Christ. C'est ça qui sera réellement ce fameux royaume des cieux. Mais au-delà de cette terre à venir, nous vivons déjà ce salut sur cette terre présente. Il ne faut donc pas faire qu'attendre cette nouvelle terre future. Et c'est dans nos vies que nous devons agir et vivre en tant que disciples du Christ en reflétant son amour et sa justice. En reflétant son amour et sa justice, votre comportement, votre état. J'ai pas dit votre parole. Bien souvent, on fait beaucoup plus de mal avec le comportement qu'on a en réunion ou en... que par les paroles qu'on dit. Alors si en plus on dit des paroles qui sont pas bonnes, c'est bouclé. Il ne faut donc pas faire attendre cette nouvelle terre future et sans nos vies, nous avons à agir et vivre en tant que disciples de Christ en reflétant son amour et sa justice. Justement, en parlant de justice, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Car ils seront rassasiés, dis donc. C'est le Seigneur qui dit, hein. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Et nous l'avons dit également, mais la repentance, c'est se reconnaître coupable devant Dieu. C'est reconnaître qu'on ne peut rien faire pour changer cette culpabilité. Mais c'est aussi désirer de tout son cœur de ne plus être coupable. C'est désirer de venir juste devant Dieu pour pouvoir vivre dans sa présence. Ceux qui désirent cette justice pour eux-mêmes se repentent alors devant Dieu et acceptent le cadeau de Dieu qu'il leur a fait en Jésus-Christ. Le pardon gratuit, le salut, la justice pour eux-mêmes sur la simple base de leur foi. Dieu rassaisit de justice ceux qui la recherchent auprès de lui. Mais rappelez-vous du verset 10, cette justice pour nous-mêmes peut nous attirer la méchanceté de ceux qui le haïssent Christ et donc qui haïssent aussi ceux qui sont au Christ. C'est sûr. Eh oui. Cette justice nous ouvre les portes du royaume des cieux, de cette nouvelle terre à venir. Mais dans notre vie présente, elle ne peut nous amener à souffrir également de la méchanceté des hommes. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon avec eux. Et en effet, la bonté de Dieu nous a amenés en vue de ce monde à venir. Elle nous demande ensuite de la refléter de notre vie présente. Refléter sa bonté malgré la méchanceté, malgré les injustices, malgré la souffrance. C'est pas facile tout ça. Et d'ailleurs, un peu plus loin, sur ce sermon sur la montagne, Jésus appellera ses disciples à aimer tous les hommes jusqu'à leur ennemi. Mais il ne faut pas dissocier l'amour de Dieu et sa justice. Et d'ailleurs, ces béatitudes nous parlent sans arrêt de ces deux en même temps. L'amour de Dieu et sa justice. L'amour de Dieu et sa justice. En définitive, la justice, c'est l'amour de Dieu. Bien souvent, on dit, t'as pris un coup. Dieu m'a mis un coup. Mais il te l'a mis le coup, pourquoi? C'était pour ton bien qu'il te l'a mis le coup. Si le berger, il a cassé la patte de la brebis qui se sauvait, là. C'était pour son mal ou pour son bien? C'était pour éviter qu'elle aille se faire manger par le loup. Donc, il lui a cassé la patte, il lui a fait mal, mais c'est pour son bien. Elle n'a pas pu se sauver. Elle était protégée. C'est ça l'amour de Dieu. La justice de Dieu. Dieu aime tous les hommes, mais il déteste le mal qu'ils font. Aimer notre ennemi, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, il faudrait tirer un trait sur le mal qu'ils ont fait. C'est une partie très difficile. Aimer notre ennemi, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, il faudrait tirer un trait sur le mal qu'ils ont fait. Aimer nos ennemis, ça veut dire souhaiter qu'eux aussi ne soient plus coupables devant Dieu, qu'ils rencontrent le Christ, qu'ils prennent conscience du mal qu'ils ont commis ou qu'ils commettent.
Ça veut dire prier pour eux.
Aimer son ennemi, c'est aussi qu'il soit plus coupable devant Dieu, qu'il rencontre le Christ, qu'ils prennent conscience du mal qu'ils commettent. Ils ne le sauront pas eux-mêmes si vous ne priez pas pour eux. C'est ça, aimer son ennemi. C'est souhaiter qu'il en vienne à se repentir pour enfin cesser de faire de mal et se tourner vers la vie éternelle en Jésus-Christ. Le mal, c'est le mal. Et il doit être traduit en justice. Dieu rendra un jour justice du mal que commettent les hommes. C'est pour ça qu'il est vital pour nous de rechercher son pardon, ce pardon qu'il nous offre. Mais Dieu désire également que sa justice se reflète sur cette terre et que le mal ne reste pas impuni. Qui peut aimer son ennemi et pourtant tout faire pour que justice soit faite? Parce que pardonner, ce n'est pas oublier. Il y en a beaucoup qui disent... C'est pardonné, t'as pardonné. Tu dois oublier. Ben non. Si t'as ramassé un coup de couteau. Il y a eu une guérison derrière. T'as plus mal, tu t'es oublié. Sauf que tu oublies qu'il y a toujours la cicatrice qui est là. Et tu auras beau faire ce que tu voudras, la cicatrice sera toujours là. Et le Seigneur le sait bien.
Lui, il a gardé ses cicatrices quand il a montré à Thomas.
Exactement, Thomas, qu'est-ce qu'il a fait? était là. Donc, mais il a pardonné, hein.
Ah oui.
Il a pardonné. Heureusement que lui, il avait pardonné, parce que tombant. Hein? Mais les cicatrices sont là. Là. Elles sont toujours là, les cicatrices. Le mal, c'est le mal et doit être traduit en justice. Dieu rendra un jour justice du mal que commettent les hommes. C'est pour ça qu'il est vital que nous le recherchons son pardon, ce pardon qu'il nous offre. Mais Dieu désire également que sa justice se reflète sur cette terre et que le mal ne reste pas impuni. On peut aimer son ennemi et pourtant tout faire pour que justice soit faite. Aimer son ennemi et pourtant tout faire pour que justice soit faite. Parce que pardonner, ce n'est pas oublier. Aimer notre ennemi, pardonner, c'est souhaiter que le coupable reçoive le pardon de Dieu. Mais ça n'efface pas le mal qui est fait dans nos vies et pour lequel le coupable doit payer. D'ailleurs, nous parlons de pardon gratuit devant Dieu. Nous parlons du pardon gratuit devant Dieu, d'accord ? C'est vrai pour nous, c'est gratuit pour nous. Mais en réalité, c'est faux. Ce pardon n'est pas gratuit. Parce que quelqu'un a payé. À notre place, il a payé le prix fort. Et c'est Dieu lui-même qui a donné la vie de son fils. C'est un prix très fort. À la place de notre mort spirituelle, Dieu a choisi de recevoir lui-même le prix de notre méchanceté. Afin que nous puissions trouver le pardon auprès de lui. Dieu nous a pardonné, mais pour cela, il a pris notre punition. De même, lorsque nous pardonnons, la justice doit quand même se faire. Les coupables méritent de passer en justice, que notre amour reste juste et notre justice soit pleine d'amour à l'image de Dieu. C'est vrai que quelque part, c'est dur. On prie pour le coupable, on prie pour l'ennemi, on prie pour celui qui a malheureusement abattu quelqu'un, mais c'est, on n'y peut rien. C'est dur, mais la justice doit être la justice. Et Dieu sauvera le pécheur, mais pas le péché. Le péché doit passer en justice. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Ça, c'est une bonne chose. Encore une fois, c'est Dieu, en nous pardonnant, qui purifie notre cœur, nous donnant ainsi accès à la vie éternelle auprès de lui. Et c'est cette pureté intérieure spirituelle qui doit se voir dès aujourd'hui dans notre vie, notre attitude, nos paroles. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, je reviens à la même chose. C'est ce qui doit se voir dès aujourd'hui dans notre vie. Notre attitude. Nos paroles. Lorsqu'une chose est pure de l'intérieur, ça doit se voir. Eh bien, c'est aussi le cas pour les disciples de Christ. Les disciples... T'as une charge à respecter. Il y a un cahier de charges pour le disciple. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu leur reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. C'est encore la même chose, la paix, avant tout... Dieu, c'est Dieu qui l'a donné. Eh oui! Lorsque nous étions coupables, nous étions rebelles envers Dieu. Mais en nous pardonnant, Dieu instaure avant tout la paix entre lui et nous. Et cette paix en Christ que Dieu nous donne, c'est celle que nous devons annoncer. Répandre autour de nous, témoigner de cette paix, de ce pardon, de ce salut, de cet amour et de cette justice. On en revient toujours à la même chose. Dieu est quoi ? Amour, justice. Parce que Dieu est juste. Les disciples de Christ, que Dieu adopte comme ses enfants, ont le devoir d'être des témoins de ce que Dieu a fait pour eux et auxquels ils appellent tous les humains. Ce texte n'est pas une promesse de consolation dans la souffrance humaine. Il n'est pas non plus une promesse de justice que lorsque nous subissons de plein fouet toute la cruauté dont l'être humain est capable. Parce que la cruauté de l'être humain, il en est capable. Hein. Mais dans ce monde rempli de mal, de méchanceté, de douleur, de tristesse, ce texte rappelle aux disciples de Christ qu'ils le sont, qu'ils sont et ce qu'ils doivent être. Ils sont enfants de Dieu, pardonnés en Jésus-Christ, membres du royaume des cieux, héritiers de la nouvelle terre à venir, bénéficiaires de l'amour, de la justice, de la consolation, de la bonté et de la paix de Dieu. Vous vous rendez compte ? Être disciple, ce que c'est. Et c'est au milieu des malheurs de ce monde, au milieu des souffrances que nous entourent et que peut-être nous vivons personnellement, c'est au milieu de tout ça que les disciples de Christ doivent apporter le message de justice de Dieu. Apporter le message de justice de Dieu. Qu'ils doivent témoigner de son amour, transmettre sa bonté, apporter sa consolation et de travailler à faire grandir la paix. Et pour en finir, que le Seigneur nous aide à nous montrer dignes de l'amour et de la justice qu'il a manifesté en nous en tout premier.
Oui.
Amen.
Amen. Amen.
C'était un message pas facile à faire. Inspiré.